limitant, en étant nous-mêmes des êtres limités, parler d'un être illimité? Comment comprendre ce qu'on voit de manière limitée dans le monde et qui nous renvoie à une réalité plus grande? Je trouve cet exercice de plus en plus difficile. Et je me dis, oui, on a non seulement besoin du secours de Dieu pour en parler, si possible avec humilité, c'est préférable, mais aussi l'esprit pour recevoir ces choses, au risque que nous enfermions Dieu dans un dogme et que nous en fassions une représentation de ce qu'il n'est pas, ou tellement partiellement. Bon, donc on va un petit peu parler de Dieu. Un petit enfant pourrait venir, il balbutierait, ça serait à peu près la même chose, nous balbutierons ensemble. Quel est le fondement de l'Église? Alors certains répondront, et ils auront une petite coche, bonne réponse. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ, on est d'accord là-dessus. Vous aurez votre certificat évangélique. Et on a raison d'une certaine manière, mais Jésus-Christ va aussi renvoyer à l'œuvre ce pourquoi il est venu. Et on ne peut pas parler de l'œuvre de Jésus-Christ sans parler de celui qu'il est venu révéler aussi, le Père. Et l'œuvre profonde du Christ et du Père et de l'Esprit-Saint touche à l'Église. Donc du coup, j'aimerais prendre la première partie d'une épître qui est considérée comme l'épître de l'Église. Quelle est cette épître? Ah, là on reconnaît l'épître aux Éphésiens. C'est l'épître de l'Église. Et vous savez, cette épître, elle a une particularité. C'est qu'elle est la seule épître qui n'a pas un caractère polémique. C'est la seule épître où Paul n'est pas pris dans l'urgence pour répondre à un problème d'Église. Ce qui fait que ce qu'il va écrire là est né d'une profonde méditation, révélation de l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est dans cette épître où plusieurs fois il utilisera aussi le mot mystère. Ceci dit, pour ceux et celles qui aiment un petit peu des choses plus théologiques, hein, donc il est en train de méditer tout cela, il entend faire une épître qu'il voudra adresser aux églises. D'ailleurs, ceci dit, on parle peut-être même d'une circulaire, parce que les manuscrits les plus anciens n'ont pas le mot « épître aux Éphésiens ». C'est dire que peut-être on a écrit une circulaire qui est laissée en blanc et qui est amenée à être transmise d'église en église. Et quand il est en train de méditer cela, il y a un conflit d'église qui apparaît à Colosse, et il va répondre aux Colossiens, et du fait, on trouvera des faits très similaires entre l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Mais ça me paraît important de comprendre ce contexte, c'est dire que ce que cet homme va dire là, il ne le fait pas précipitamment. Ça va être un homme qui aura lutté dans la prière pour essayer d'expliquer, de nous expliquer ce qu'il a pu comprendre du mystère de Dieu. Et il le donne à l'Église. Donc je vous propose de faire une lecture dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. À partir du verset 3. Pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite peut-être à fermer les yeux et écouter. Parce que vous savez, parfois, nous avons tellement de versions. On lit dans une version, l'homme la lit dans une autre, et ça diminue notre capacité d'écoute et d'accueillir le texte dans notre être intérieur. Alors, je vous inviterai plutôt à écouter ce texte et voir quelle va être la résonance, qu'est-ce que ça provoque d'entendre ces paroles en vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui d'avance ont espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, acompte pour notre héritage jusqu'à la délivrance finale où nous prendrons possession à la louange de sa gloire. À moins de rajouter Amen. Vous savez que tout ça, c'est une seule phrase dans le texte original. Et à l'époque, il n'y avait même pas de ponctuation. Souvent, je me noie dans ce texte. À peine un mot saisi, il y en a un autre, et encore un autre, et encore un autre, et on ne sait pas où s'arrêter. Parfois, on a réussi ce tour de force à faire de la doctrine à partir de ce texte, à en faire de la théologie. Alors que tous les théologiens seront d'accord pour dire qu'on a ici affaire à ce qu'on appelle, en termes techniques, une doxologie, c'est-à-dire littéralement une parole de gloire. Vous savez, une parole de gloire, ce n'est pas de la théologie pure, ou intellectuel ou rationnel, c'est quelque chose qui jaillit d'une communion. Je ne dis pas qu'elle n'a pas un côté intellectuel, mais elle transcende. Elle provient d'une profonde communion. Et que c'est bien dans ce sens qu'il nous faut commencer par comprendre cela. Et personnellement, j'entends là-dedans combien Paul a dû méditer, combien il a dû passer de temps dans la contemplation, l'adoration. Comme pour nous dire, ben voilà, c'est le commencement de l'Épître qui va nous expliquer ce qu'est l'Église. Si nous voulons la comprendre, plutôt que de raisonner, il nous faut aussi commencer à saisir quelque chose de Dieu dans l'adoration, la méditation et la contemplation. Et le reste ne sera que le prolongement de ce que nous aurons découvert là-dedans. Et c'est intéressant de voir que toute la dimension éthique, elle est à la fin de l'Épître. comme pour dire que peut-être nos vies ne sont que le résultat, plus ou moins, de ce que nous avons compris de Dieu. Fantastique ouverture où le croyant est invité à bénir ce Dieu qui le bénit. Béni soit celui qui nous a bénis. Vous savez, c'est toi qui as parlé de danse. Hein? Moi, j'y vois une danse, une harmonie. Je bénis celui qui me bénit et je le bénis. C'est un mouvement magnifique. Et toi, tu as parlé de la reconnaissance. Des fois, moi, je me dis, mais quelle serait ma vie de couple si je passe mon temps à, de tout mon cœur, honnêtement, à bénir une femme qui me bénit. Et nous passons notre temps à nous bénir. Il y a sûrement une beauté relationnelle là-dedans. Je dis sûrement, parce que je suis en route. Le texte nous dit encore, au début, que nous avons été bénis de toute bénédiction. Il ne nous dit pas, tu seras béni de toute bénédiction. Comme pour nous dire, mais tu l'as, la toute grande bénédiction. Et là encore, parfois je m'interroge, mais qu'est-ce que je comprends, moi, dans la bénédiction ? Parce que dans notre langage contemporain matérialiste, j'entends, le Seigneur m'a béni, il m'a donné une voiture, le Seigneur m'a béni, il m'a donné une maison, le Seigneur m'a béni, il m'a donné un travail. Ah, et moi qui suis chrétien et qui n'ai pas reçu de travail, je ne suis pas béni alors. Non, tu es aussi béni, mais moi je suis béni. Ah, d'accord. D'où parfois la théologie des chouchous de Dieu. Je ne veux pas forcément évacuer cet aspect-là de la bénédiction, mais dire qu'ici Paul entend dire autre chose, qu'il y a une bénédiction plus importante, plus grande. Vous savez, nous sommes d'une culture où on n'a jamais eu autant de choses, même le pauvre. Le pauvre est un riche, selon avec qui on le compare. Est-ce que ça fait de nous des gens plus heureux ? Voilà. Et cette bénédiction touche un gros mot, l'élection. L'élection. Et le mot est lâché. Nous sommes les élus de Dieu. Et c'est là le cœur de la bénédiction. Alors, j'entends pas ici ouvrir la controverse entre la prédestination, élection, le libre arbitre de l'homme, mais alors, ceux qui ne sont pas élus, prédestinés, sont-ils prédestinés à aller en enfer ? Ou je me pense que si on entre dans cette théologie-là, on passe à côté de ce que Paul veut dire. Où on doit justement se rappeler qu'il a écrit ça dans un souffle d'adoration. Se découvrir élu par Dieu, il y a un autre synonyme, c'est se découvrir choisi par Dieu. Bonjour. Je vais laisser le monsieur prendre place. Avec plaisir que nous vous accueillons, si je puis me permettre, Jean-Luc. Vous savez, se découvrir choisi de Dieu, élu par Dieu, est de l'ordre de l'existentiel, de l'ordre du vécu. Et se découvrir choisi par Dieu ne concerne pas l'autre, ne concerne pas la question « et l'autre l'est-il ?» Mais il faut d'abord la ramener à soi. « Toi ?» toi, découvre-toi comme ayant été choisi par Dieu. Et c'est ça le cœur de ce que Paul entend dire. Et se découvrir choisi par Dieu, c'est très personnel, c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre du plus profond de notre être. C'est pourquoi, si vous me permettez, je me permettrai d'utiliser maintenant la deuxième personne du singulier. Parce que c'est à toi que c'est dit ces choses. Pas à on, pas à l'autre, mais chacun est amené à le prendre pour lui. C'est pourquoi, sans y mettre de la familiarité, je me permettrai d'utiliser le tu. Ce qui fait que ce texte dit, en Dieu, tu as été choisi avant la fondation du monde. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait choisi. Avant même que tu sois, j'ose mettre un autre mot très proche, tu étais désiré. Tu étais attendu parce que tu étais choisi par Dieu. Il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, Dieu t'avait déjà choisi. Vous comprenez pourquoi je disais balbutiement ? On touche déjà ici à quelque chose de l'éternité. C'est ce que va chanter David aussi dans son psaume 139, lorsqu'il va dire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dans l'évangile de Jean, Jésus dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et c'est le même mot que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Ça aussi, je peux le dire en une phrase, mais je ne sais pas si je l'ai encore bien saisi au fond de moi, parce que ça nous dit « Comme le Père m'a choisi, le Fils également me choisit. » Et c'est le Père et le Fils qui, ensemble, de toute éternité, m'ont choisi. Le fait que tu sois choisi, c'est un projet communautaire du Père et du Fils. Ensemble, en plein accord, en pleine harmonie, communion, ils vont dire « On te choisit ». Toujours dans ce même passage de l'évangile de Jean, Jésus va encore dire « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai détesté. » C'est ça ? « Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. » L'amour que Jésus nous porte est le même que celui que le Père porte à son Fils. On peut déjà se poser la question, mais quel est cet amour que le Père porte à son Fils ? C'est un amour d'éternité. Le Père aime le Fils de toute éternité. J'ai la peine à saisir que cet amour du Père pour le Fils n'a pas de commencement. Son amour pour toi n'a pas de commencement. Il n'y a pas un jour où il a commencé à t'aimer. Il est de toute éternité comme le Père a aimé le Fils. Est-ce que je peux comprendre ça ? Ça dépasse mon entendement. Parce que ma femme, je ne l'ai pas aimée de toute éternité. Et je n'ai pas de modèle sur terre qui me montre cet amour qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et je ne peux pas le comprendre. Parce que c'est bien ça, un des problèmes de notre terre, sur notre terre. C'est que sur terre, nous voyons l'amour qui a un commencement. Et ça, quelque part, on le porte tout au fond de nous, qui nous met dans l'insécurité de beaucoup de choses. Mais le Père va aussi dire à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette parole, nous pouvons facilement l'ouvrir à l'ensemble de la communauté. Et dire donc que l'amour que le Père nous porte est un amour qui n'a pas de commencement, mais aussi un amour où il y a toute l'affection. Du coup, avant que tu naisses, avant que tu fasses partie de l'histoire avec ses hauts et ses bas, tu existais déjà dans le cœur de Dieu et il t'a choisi parce qu'il t'aime de toute son affection et de toute éternité. C'est ça la doctrine de l'élection. Est-ce que je le comprends ? J'ose même pas lever la main pour dire que je le comprends. Je ne peux pas le comprendre. C'est l'Esprit qui doit me révéler ces choses. Et vous voyez, le danger de cette doctrine, c'est quand nous la comparons aux élections dans le monde. Parce que comment se passe l'élection, le choisir dans le monde ? C'est la compétition. Synonyme très souvent d'exclusion. Vous savez, on peut remonter à cela à très loin dans ces expériences de jeunesse. Lorsque, par exemple, chez nous, au moment d'avoir l'activité sportive, il fallait former deux équipes. Et on prend les deux meilleurs, première élection, pour éviter qu'ils soient dans la même équipe. Puis ensuite, on leur demande de constituer une équipe à tour de rôle. Ils vont commencer par choisir qui ? Les meilleurs. Et vous savez, dans toute ma scolarité, il y avait toujours les mêmes qui étaient choisis en dernier. Et parfois, on voit le reste du groupe, « Oh non ! Oh non ! » !»« Alors, écoute, touche pas le ballon, s'il te plaît !» Vous savez, je pourrais dire à Jean-Luc, écoute, tu vas devoir aller représenter source de vie quelque part, et ça va être très important. Choisis quelques personnes. Quels vont être les critères ? On ne s'en sort pas de cette histoire de compétition. Quelqu'un d'entre vous veut fonder une entreprise. Il a besoin d'employés ou d'équipiers. Il va choisir qui ? Compétents, c'est-à-dire les meilleurs sur le plan professionnel. Exclusion, compétition. Parce que maintenant, est-ce qu'il faut prouver qu'on est le meilleur ou pas si on veut avoir une place ? Il faut se montrer compétent. Il faut montrer que vous connaissez l'entreprise, si vous ne la connaissez pas. Et je suis sûr, nous avons tous énormément de souffrances dues à cette élection, sur le mode compétition, et c'est fatigant. Je veux dire, on est aussi dans un contexte professionnel où j'arrive à une place de travail, ça va, je m'en tire plus ou moins. Qu'est-ce que je fais quand il y en a un qui est meilleur que moi et il y a des rumeurs de licenciement ? Je le vis mal. Je ne sais pas si tu as déjà pu prendre un petit peu de recul et sonder l'intérieur de ton cœur et découvrir combien c'est important pour toi de te savoir choisi, simplement, sans ce mode de compétition. Et que nous aspirons à être choisis. Et ça touche profondément notre identité. Nous avons ce besoin de se savoir choisi. Ça renvoie peut-être à des besoins de sécurité, mais d'exister tout simplement. Moi, je vois, j'ai trois gamins, ils ont besoin de se savoir choisi. Alors eux sont sous le registre de la compétition, ils voudraient être celui qui est encore plus choisi que l'autre. Et on ne sait pas comment gérer ça en tant que parent. Alors on essaye toutes sortes de théories, on vous aime de la même manière, et ceci et cela. Ouais, mais pourtant tu lui as fait plus ceci que cela. Et ils voudraient que dans le secret, on leur dise, dis-moi que c'est quand même moi ton préféré. Alors ça va, moi j'ai une fille, alors je lui dis, tu es ma fille préférée. Le problème c'est que j'ai deux garçons, et là ça ne marche pas. L'enfant cherche déjà à se découvrir choisi. Fondamentalement choisi. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, nous avons tellement ce besoin d'être choisi et peur de ne pas l'être que nous nous présentons quasiment toujours à l'autre sous notre meilleur aspect, en cachant nos zones plus fragiles, plus vulnérables. Est-ce que quand vous recevez vos amis chez vous, vous vous présentez sous le plus mauvais jour? C'est comme ça que ça fonctionne? Quand on veut plaire à quelqu'un, on ne se brosse pas les dents pendant 4 jours. Ceci dit, dans cette petite blague, j'ai regardé dernière fois, très récemment, La vie est un long fleuve tranquille, où à un moment donné, le gars doit partir un mois en vacances et il sort avec la fille. Elle lui dit, je te promets que je ne me laverai plus pendant un mois pour que je puisse garder ton odeur. Je me dis, ah purée. Bon, parenthèse fermée. Je veux dire, ne nous y trompons pas, nous avons tellement besoin d'être valorisés qu'on se présente chaque fois que c'est possible sous notre meilleur jour. Et on cache une partie de nous. Parce que nous ne serions pas sûrs que si on la présentait, on nous aimerait encore autant et on nous choisirait encore. C'est ça un de nos problèmes. Ce qui fait aussi que nous le voulions ou non, nous rentrons dans des rôles. Et nous pensons ensuite que si je remplis bien ce rôle, je serai choisi. Et on va continuer de me choisir. C'est ce qui fait qu'un leader pense que c'est en étant leader qu'on va l'aimer et il rentrera dans ce rôle-là et si tout d'un coup un autre leader se lève, il se sent menacé dans son identité. Mais ça peut aussi être dans la famille le bout en train qui trouve une valorisation, une sorte d'élection dans ce rôle-là. Alors imaginez qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a un autre bout en train qui arrive. Il est un peu moins bout en train, là. Et on entre dans la compétition. Et on entre dans les conflits. Et on entre dans l'accusation, l'agressivité, repli sur soi. Enfin bref, tout le tralala de casserole. Est-ce que j'existerais encore si je ne faisais plus rire les autres ? Ou encore celui qui trouve sa valorisation dans servir les autres. Alors parfois son problème, il sert les autres, mais voilà que parfois c'est un peu trop pour l'un. Et le lui fait remarquer. Vous allez voir que d'emblée ça touche, paf, au cœur de l'identité. Ou alors cette personne qui aime servir les autres, ça devient trop qu'elle n'arrive plus à suivre, et elle se met à douter. Est-ce qu'on m'aime encore? Je ne suis plus à la hauteur. Si tu veux être choisi, tu dois te battre. Si tu veux réussir et rester élu, cache ta faiblesse. On l'a vu hier soir, pour ceux et celles qui ont regardé le rugby, Ben, je veux dire, oui, c'était quoi ce face-à-face, tout le haka? Puis les Français qui se mettent tout près, je ne montre pas ma faiblesse. Je crois consciemment ou non que tu cherches, que toute l'humanité cherche à faire partie des élus. C'est le principe de la pub. Où on te fait croire que pour faire partie du cercle des élus, il te faut acheter tel produit. Et que si tu l'as, tu fais partie des élus. C'est aussi une stratégie de marketing où parfois vous recevez un coup de fil et on vous dit « Vous avez été choisi pour recevoir tel cadeau. Mais pour cela, il faut que vous puissiez venir le chercher le mercredi dans tel endroit. Vous y allez, vous devez d'abord vous farcir et être en couple. Vous devez vous farcir une heure d'écoute sur un meuble, sur ses qualités, ses défauts, etc. Et ensuite, vous recevez le fameux cadeau de l'élection. En général, un truc qui tient à peine un mois. En tout cas, de ceux que j'ai reçus. Maigre élection. On essaye de nous faire croire que nous sommes élus. Regardons aussi comment nous considérons tous les sportifs, les artistes, les chanteurs, certains politiciens, d'autres des intellectuels, comment ils sont présentés à la télévision. Ils sont présentés comme étant les élus. Et nous, on est là parfois, waouh, qu'est-ce que j'aimerais faire partie de ce groupe d'élus, moi qui suis noyé dans la masse. Alors heureusement, on a créé Star Academy, où on prend quelqu'un et on en fait un élu qui montre que c'est possible de passer de la masse populaire à l'élection et rejoindre le cercle restreint des élus. Alors ensuite, pour les ados, on va des fois mettre des posters partout et rêver d'accéder à cette élection. On n'a pas fait ça, non? Tu as fait Star Academy? C'est ton rêve?
Non.
D'accord. Pourquoi pas?
Ça n'existait pas.
Ah, t'as jamais joué à Johnny devant la glace? On te demandera pas qui. Tu vois, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que Dieu n'est pas comme nous.
Moi, je veux juste témoigner. Je suis représentant dans une société qui vend des fonds et c'est la compétition. Et c'est toujours ça, c'est 3-4 filles par jour. C'est sous 7 SMS et c'est toujours soit le premier, soit l'élu. Mmh. Et c'est pas toujours facile tous les jours déjà d'arriver à la hauteur.
Mais c'est pas seulement le monde professionnel, c'est à tous les niveaux. Si tu veux avoir une relation avec l'élu de ton cœur, tu vois, l'élu, comment vais-je entrer dans cette élection? Je vais entrer dans quelque chose où je vais me valoriser et donc du coup mettre de côté. Et ce qui fait qu'en nous, on ne se sent pas choisi pour la totalité de notre être, fondamentalement, absolument. Et on n'en trouve pas l'expérience humaine. Alors c'est très fort dans le monde du travail, maintenant. Je suis sûrement gentil en disant ça. C'est pour ça que je dis, je balbutie, parce que je parle de quelque chose dont je ne trouve pas de modèle sur Terre. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Et que être choisi par Dieu, l'élection, comme bien-aimé de toute éternité, est tellement différent, radicalement différent. Et que l'élection de Dieu ne repose pas sur la compétition, mais sur sa compassion. Et ça, c'est tout au fond de mon être que je dois le saisir. Tu n'as pas été choisi par Dieu sous le mode de la compétition, ou parce que tu serais le meilleur, ou le pire, parce que parfois on choisit les pires, pour des raisons précises. Ou parfois on est choisi pour du sale boulot. Ou on est choisi pour être la victime de... pour... Mais je suis choisi parce que de toute éternité, avant que je sois, Dieu m'a aimé. Et il me choisit pour manifester cet amour. C'est pourquoi Paul ne peut qu'en parler dans l'adoration, la méditation, la contemplation. Et il t'invite à découvrir que absolument, fondamentalement, profondément, tu as été choisi par lui. Encore faut-il que je reconnaisse en moi ce besoin. Ça, c'est de l'intériorité. C'est pour ça que je n'ai pas à m'occuper de l'autre. Découvre-le pour toi-même. Parce que ça bouleverse ta vie. Ça bouleverse fondamentalement ta vie. Et tu ne vas plus partir comme ça à la recherche. Et finalement, c'est ce que Paul va nous dire plus loin, que nos raisonnements, nos comportements reflètent souvent que nous ne croyons pas complètement, que absolument, fondamentalement, nous sommes choisis par Dieu. Jusqu'à quel point nous avons été choisis par le Christ et profondément réconciliés, unis, adoptés. C'est pourquoi ce texte va finir en disant, pour que nous puissions comprendre tout ça, nous avons été scellés du Saint-Esprit. On a reçu le sceau du Saint-Esprit. On parle un peu moins du sceau hein, quand on parle du Saint-Esprit. Mais c'est quoi un sceau? C'est pas un sceau. Et c'est pas un sceau d'eau. C'est quoi? Le cachet. Et qu'est-ce qu'il veut dire ce cachet? Ça veut dire qu'il y a premièrement une appartenance irrévocable qui engage et qu'il ne reviendra pas là-dessus. Et c'est déposé en nous pour nous dire que dans cette élection-là, il ne reviendra pas là-dessus, il l'atteste absolument. Et pour que nous puissions le saisir, il nous donne son esprit en nous. Et j'ai envie de dire, alléluia, voici maintenant réunis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le fondement de l'Église, les élus de Dieu, les élus qui bénissent Dieu de cette œuvre magnifique, tellement bonne qu'on ne se sent pas menacé, de telle sorte qu'on peut même le proposer aux autres. Tu es choisi pleinement, entièrement, totalement, et je ne me sens pas menacé. Et l'Église a ce rôle fondamental de proclamer cela, d'être tout autre que ce que le monde propose. Voilà ce que j'avais à cœur d'apporter ce matin. Ça dépasse toute théorie. J'espère que ça va dépasser le discours pour saisir quelque chose que je ne saurais pas vous expliquer complètement. Et je vais m'en décharger en renvoyant tout ça à Jean-Luc maintenant, pour qu'il puisse poursuivre selon ce que l'Esprit lui dira.